Merci Inès, content d'être avec vous, content de pouvoir ouvrir la parole ensemble et commencer cette nouvelle série de prédications. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Prions. Oui, notre Dieu, nous savons que ce qui se trouve dans la Bible, il ne s'agit pas de paroles humaines, il ne s'agit pas d'opinions parmi d'autres. Mais il s'agit de ta parole, celle qui vient de ta bouche et qui agit puissamment en nous qui croyons. Nous te prions que ça soit encore le cas ce matin, alors que ta parole sera ouverte, exposée, expliquée, que tu puisses agir dans nos cœurs pour nous montrer ce que ça implique pour nos vies, qu'on puisse y répondre avec foi et que cela produise un fruit visible dans chacune de nos vies qui serve à ta gloire. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme Steve l'a dit, on commence une nouvelle série de prédications dans 1 Thessaloniciens. Alors, c'est déjà un défi de pouvoir le prononcer. Et pour quelqu'un qui aime parler vite comme moi, c'est un bon livre pour m'apprendre à parler plus doucement et plus posément. Si on prononce ça trop vite, on ne comprend rien. Donc, 1 Thessaloniciens. Et cette lettre, cette première lettre de Paul aux Thessaloniciens, le contexte de cette lettre, c'est un peu comme si vous abandonnez quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous est très cher, vous le laissez dans un pays et vous, vous rentrez chez vous, dans un pays qui est très loin. Et vous avez laissé là cette personne auquel vous êtes vraiment attaché, à qui vous tenez beaucoup, et vous vous inquiétez parce que vous n'avez pas de nouvelles. Vous dites, mais est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a trouvé du travail? Est-ce qu'il est même toujours en vie? Est-ce qu'il arrive à avoir de ce qu'il faut pour pouvoir vivre au jour le jour? Et vous vous inquiétez, vous avez beaucoup de stress et d'inquiétude vis-à-vis de ça. Et puis un beau jour, vous allez dans votre boîte aux lettres et vous recevez une lettre de cette personne qui vous dit que tout va bien, que tout va même très bien, et que c'est encourageant, qu'elle a trouvé un travail, qu'elle a une bonne situation de vie, que tout se passe bien pour elle dans ce pays. Et là, bah vous êtes vraiment encouragé. Vous êtes rassuré, vous poussez un ouf de soulagement. C'est un peu ce contexte-là quand Paul écrit aux Thessaloniciens. Il s'agit d'une jeune église qui a été implantée par Paul et son ami Silas, et ils ont dû abandonner cette église précipitamment, juste quelques semaines après, en raison de la persécution. On apprend ça dans Actes 17. Mais ces chrétiens, ils sont restés fidèles et Paul y reçoit des nouvelles de ces chrétiens de la part de Timothée. Et les nouvelles sont bonnes, elles sont très bonnes. Et donc Paul peut pousser un ouf de soulagement. Et donc c'est à la lumière de ces nouvelles qu'il a reçues que Paul écrit aux Thessaloniciens. En fait, c'est pas juste Paul, comme on le voit au verset 1 du chapitre 1. Il s'agit de Paul, de Sylvain ou de Silas et de Timothée. C'est tous les trois qui écrivent, mais Paul est quand même l'auteur principal. À certains moments, il parle à la première personne. C'est pour ça que je ferai souvent référence à Paul ici. Et on pourrait dire que le résumé de cette lettre, c'est « Tout va bien, continuez à progresser. Tout va bien, continuez à progresser. » C'est pas qu'ils ont déjà achevé la course, c'est pas que leur foi est parfaite, mais ils sont en train de grandir, ils sont en train d'avancer dans la bonne direction. Et comment est-ce que Paul peut savoir que tout va bien? Comment est-ce que Paul peut savoir que ce sont des chrétiens authentiques? Bah parce qu'il peut le voir. C'est pas simplement qu'il croit les bonnes choses, c'est pas simplement qu'il s'attache aux bonnes vérités, mais c'est qu'on peut voir ces vérités à l'œuvre dans leur vie. Parce que la foi chrétienne, c'est pas juste comme les nouvelles qu'on lit dans un journal ou les nouvelles qu'on regarde à la télé. C'est intéressant, c'est utile, mais ça s'arrête là. Ça va pas forcément bouleverser notre manière de vivre. Ou la foi chrétienne, c'est pas non plus juste comme une vidéo YouTube. C'est utile, ça nous apprend des choses et ça peut même nous amener à changer certaines habitudes dans notre vie. Mais ça ne va pas complètement révolutionner notre manière de penser, de parler, d'agir, de voir ce monde. Ça ne va pas complètement bouleverser notre manière de vivre au quotidien. Alors que la foi chrétienne, si. Si on adhère sincèrement aux vérités de la foi chrétienne, alors ça va se voir dans notre vie. Ça va impacter notre manière de penser, notre manière de parler et notre manière d'agir. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans notre passage. Dans ce passage qu'on a lu, Paul, il explose en reconnaissance pour montrer tout ce qui va bien chez les Thessaloniciens, tout ce qui l'encourage dans leur vie. Dans un sens, il est presque en train de vanter tous les points positifs de leur foi. Et peut-être que ça peut nous surprendre dans notre contexte évangélique où on est un peu frileux de souligner ce qui est positif, de donner des encouragements. On se dit, mais si on le fait, ça va entraîner de l'orgueil chez les gens. Mais Paul, il nous montre ici qu'il y a de la place dans notre vie pour de l'encouragement chrétien. Il n'a pas peur d'encourager ces chrétiens, de mettre en avant les points positifs de leur foi. Mais il le fait d'une manière qui rend clair que dans tout ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et en fait, c'est ce qu'il veut affirmer dans ce passage. Dieu est à l'œuvre parmi vous. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ça. Et c'est magnifique. Regardez avec moi au verset 2. On voit que Paul s'adresse à Dieu. Il écrit « Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. » Oui, il mentionne tout ce qui va bien chez les Thessaloniciens, mais il le fait en remerciant Dieu pour tout ça. Parce qu'il sait que, ultimement, c'est l'œuvre de Dieu en eux. Et au verset 4 et 5, si vous regardez ça avec moi, il souligne ça encore plus. Il dit ceci « Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qui vous a choisis. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. » Tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe chez les Thessaloniciens, c'est l'œuvre de Dieu. D'abord au verset 4, parce qu'ils ont été choisis par Dieu de toute éternité, dans sa souveraineté, dans sa grâce, dans sa bonté. Dieu a posé les regards sur ces personnes en disant « Ils sont à moi. Je veux les racheter par le sang précieux de mon Fils. » Donc si on remonte la chaîne qui fait que tout va bien chez ces chrétiens, si on remonte la chaîne jusqu'à l'origine, on voit qu'au tout début, c'est Dieu qui est là. C'est la grâce de Dieu qui a tout initié. Mais on peut se demander comment est-ce que Paul peut affirmer avec autant de certitude que les Thessaloniciens ont été choisis par Dieu. Eh bien, il donne la preuve de cela dans le verset 5. Il dit « Nous savons qu'il vous a choisi parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. » Quand les Thessaloniciens ont entendu Paul et Silas leur annoncer l'évangile, ce n'était pas juste des mots. Ce n'était pas juste un discours religieux ou des paroles intéressantes parmi d'autres. Ce n'était pas non plus simplement quelque chose d'émotionnel qui les a amenés jusqu'aux larmes. Mais c'est un message qui a pénétré tout droit au plus profond de leur cœur et qui a produit du fruit dans leur vie. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a accompli. Parce que c'est lui qui doit nous donner la vie spirituelle pour qu'on puisse comprendre l'Évangile. En dehors de tout ça, le message chrétien, c'est juste un discours religieux parmi d'autres. C'est juste une suite de mots qui n'ont pas vraiment de sens. Et là, on peut à nouveau se demander, mais quelle est la preuve de ça? Quelle est la preuve que c'est l'Esprit qui a agi? Paul a dit que ces chrétiens ont été choisis par Dieu, d'accord? Et que la preuve de ça, c'est que l'Esprit a agi avec puissance. Mais comment est-ce que Paul peut dire ça? Comment est-ce qu'il peut voir ça? Et c'est ça qui nous amène au reste de notre passage, qui met en avant dans un sens à quoi ressemble une vie chrétienne authentique. Les signes qui permettent de dire « Ah oui, là l'Esprit a agi avec puissance, là il s'agit de chrétiens véritables ». Et on va voir quatre signes ensemble qui vont être affichés à l'écran probablement, quatre signes que Paul met en avant dans ce passage qui était présent chez les Thessaloniciens. Premier signe, dans les versets 1 à 3, une foi active. Une foi active. Comme on l'a dit, la foi chrétienne impacte tous les domaines de notre vie. Ça se voit dans notre quotidien. Ça nous amène à changer, à vivre différemment. Et c'est ce qu'on voit ici aussi. Paul peut dire que les Thessaloniciens sont des chrétiens sincères, authentiques, que Dieu est à l'œuvre parmi eux, parce que ça se voit. On peut voir dans leur vie qu'ils vivent ce qu'ils croient. Regardez le verset 3, il écrit « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. » Leur foi se met à l'œuvre. Leur amour travaille et leur espérance est ferme. On a peut-être tendance à penser que la foi, c'est quelque chose d'abstrait. C'est juste un sentiment, une émotion, quelque chose qu'on ressent. Mais quand il est parlé de foi ici, il est question de quelque chose d'objectif. Il est question de placer sa foi en quelque chose, dans des vérités, dans un contenu. Dans la vérité que Jésus est mort et ressuscité. Qu'il faut se détourner de ses fautes et placer sa confiance en lui pour être sauvé. Mais il est possible de reconnaître ces vérités en s'arrêtant là, sans vivre en conséquence. C'est pour ça que la preuve qu'ils ont une foi authentique, ce n'est pas simplement qu'ils croient dans ces vérités, même si c'est le cas, mais c'est qu'ils vivent à la lumière de ces vérités. On peut voir leur foi à l'œuvre dans leur vie, comme c'est décrit dans ce passage. La manière dont ils ont persévéré dans les épreuves, on va le voir. La manière dont ils se sont détournés des idoles pour se tourner vers Dieu, on va voir ça aussi. Et donc ça, ce sont des preuves qu'ils croient réellement que leur foi est authentique. Et c'est la même chose pour l'amour. C'est facile de dire qu'on aime quelqu'un si on ne fait rien pour lui. Mais l'amour des Thessaloniciens, c'était plus que simplement une émotion, un sentiment passager. C'était quelque chose de sincère parce que cet amour s'était mis au travail. Il écrira ça plus tard aux Thessaloniciens au chapitre 4. « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Ils sont un exemple dans l'amour qu'ils ont les uns envers les autres dans l'Église, et ça peut se voir concrètement. Et enfin, c'est la même chose pour l'espérance, parce que leur espérance est placée au bon endroit, alors elle est ferme, elle est solide. C'est pas juste une espérance vague, incertaine, mais c'est une certitude. La certitude que Jésus va revenir et qu'ils vivront avec lui pour toujours. C'est un des grands thèmes de 1 et 2 Thessaloniciens, ces deux lettres, le retour de Jésus. On voit ça dans notre passage et on y reviendra vers la fin. Jésus va revenir et en tant que chrétien, on l'attend pour connaître la délivrance finale. Et là encore, cette espérance se voit chez ces chrétiens, elle est ferme et c'est ce qui leur permet de persévérer. C'est ce qui leur permet de tenir bon malgré tout. Et tout ça, ça nous aide à comprendre le lien étroit qui existe entre les vérités qu'on affirme et la manière de vivre, entre la doctrine et la pratique, entre la tête et le cœur, entre les vérités objectives de la foi et le style de vie. On ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas choisir l'un ou l'autre, choisir l'un et rejeter l'autre. On ne peut pas dire « Ah, mais moi, étudier la Bible, réfléchir pendant trop longtemps, m'intéresser à la théologie, ah, ça, c'est pas pour moi. Moi, je veux juste vivre, je veux juste ressentir les choses. Donnez-moi des choses pratiques, donnez-moi du concret. » Dites-moi ce que je dois faire. Mais on ne peut pas vivre de la bonne manière sans connaître les vérités qui nous poussent à vivre de cette manière. On voit dans ce passage que les œuvres sont motivées par la foi. Le travail est motivé par l'amour et la persévérance est motivée par l'espérance. Et donc on a besoin, ça veut dire qu'on a besoin de faire chauffer notre cerveau, d'ouvrir notre Bible, de l'étudier. Parce que c'est seulement comme ça qu'on aura la bonne motivation pour vivre la vie chrétienne. Mais à l'inverse, on ne peut pas juste s'intéresser, se limiter à des vérités intellectuelles sans jamais voir ce que ça implique dans nos vies. Oui, c'est une chose merveilleuse de passer du temps à étudier la Bible, de s'intéresser à la théologie, de réfléchir à des sujets compliqués concernant notre Dieu, c'est une bonne chose à faire. Mais on doit aller jusqu'au bout du travail et voir comment ces choses changent notre manière de penser, de parler et d'agir. Un chrétien isolé dans sa tour d'ivoire, entouré de livres, qui reste là, bah ça ne devrait pas exister. Je parlais il y a quelques mois avec un jeune dans un autre pays, dans un autre continent. Il était vraiment passionné de théologie. Il lisait tout ce qu'il trouvait, vraiment tout ce qu'il trouvait. Il s'intéressait à des sujets compliqués. Il était bien avancé pour répondre à des questions difficiles sur la théologie. Et il avait, il faut le dire, une théologie qui était impeccable, il n'y avait rien à redire. Mais il était vraiment arrogant envers ceux qui ne pensaient pas comme lui, méprisant. Et dans plusieurs domaines de sa vie, il vivait dans le péché sans aucune honte et sans voir l'incohérence. Et je me dis, mais c'est tellement triste, c'est tellement dommage. La foi sincère doit produire un changement de vie. On doit aller jusqu'au bout du travail. Ce qui est dans notre tête doit descendre dans notre cœur et se voir par les autres. C'était le cas pour ces chrétiens, ces Thessaloniciens. Et c'est pour ça que Paul est profondément reconnaissant. Le premier signe, une foi active. Deuxième signe de leur foi authentique, qui sont des chrétiens authentiques, c'est une persévérance dans l'épreuve, une persévérance dans l'épreuve. On voit ça en particulier au verset 6. Il faut se rappeler ici le contexte de cette lettre, on l'a dit brièvement. On apprend que dans Actes 17, que Paul et Silas ont été à Thessalonique, la ville de Thessalonique, pour annoncer l'évangile. Il y a pas mal de personnes qui ont cru en Jésus, qui sont devenues chrétiens, dont pas mal de non-juifs. Mais au bout de juste quelques semaines, les juifs ils sont agacés de voir ces gens qui parlent tellement de Jésus, qui font tellement de cas de Jésus. Et donc ils provoquent des attroupements. Ils sèment le trouble dans la ville pour faire taire ces chrétiens. Il y a même un de ces chrétiens de Thessalonique, Jason, qui doit aller au tribunal et payer une amende pour sa foi, pour avoir hébergé Paul et Silas. Et probablement, même après le départ de Paul et Silas, ces persécutions ont continué. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 6. « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ils ont accueilli la parole au milieu de grandes difficultés. Et quelle a été la réaction de ces chrétiens à ces épreuves? Ben, ça n'a pas été d'abandonner. Ça n'a pas été de dire « Ah, c'est trop dur. Depuis qu'on est chrétien, on n'a que des problèmes. Tout le monde est contre nous. Mieux vaut pas toucher à ce truc, le christianisme, c'est trop dangereux. Mieux vaut laisser tomber. » Non, ils ont accueilli la parole, même au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ils sont restés attachés à la parole. Ils ont continué à grandir, à avancer, à aller de l'avant. Et ça, c'est la preuve d'une foi authentique. Ça, c'est la preuve que Dieu a été à l'œuvre parmi eux, comme on l'a vu. Ils n'ont pas abandonné, mais ils ont persévéré dans l'épreuve. On peut être découragé par les épreuves que l'on traverse dans nos vies, de l'opposition au travail, dans notre famille, avec nos amis, des personnes qui voudraient nous ralentir pour qu'on arrête de prendre trop au sérieux la vie chrétienne, des conflits qui nous pèsent, une situation de vie trop lourde à porter. Et on peut être vraiment découragé par ça, sincèrement. Mais dans tout ça, on peut se réjouir de pouvoir persévérer, même malgré l'épreuve qui est difficile, parce que c'est la preuve que notre foi est authentique. Sinon, on aurait déjà abandonné. On aurait déjà laissé tomber. C'est ce qu'on voit dans la parabole du semeur, par exemple, où il est question de personnes qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Ce sont des personnes qui, à la moindre difficulté, jettent l'éponge. C'est trop difficile. J'abandonne. J'arrête. Alors que ceux qui ont une foi authentique persévèrent et portent du fruit, même dans l'épreuve. Alors ça ne veut pas dire qu'on va trouver l'épreuve facile, légère, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas douter, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où on ne sera pas au fond du trou. Mais dans tout ça, on veut rester attaché au Seigneur, quoi qu'il en coûte. Et on peut être encouragé par ce désir de rester accroché au Seigneur, parce que c'est la preuve d'une foi vivante. Et là encore, cette persévérance, elle est rendue possible par Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est question d'accueillir la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est surprenant. Comment est-ce que ces chrétiens pouvaient être joyeux, même malgré les grandes difficultés? Et c'est ce qui me surprend toujours quand on lit, par exemple, des nouvelles de Portes Ouvertes qui œuvrent pour les chrétiens persécutés, de voir des gens qui passent par la persécution physique pour leur foi et qui sont malgré tout pleins de joie. Et on a l'impression que plus ils traversent des choses difficiles, plus ils sont joyeux et reconnaissants. Je lisais cette semaine un témoignage. C'est pas de ce siècle-là, du 20e siècle, Richard Wurmbrand, un chrétien roumain qui a été torturé et mis en prison sous le régime communiste, et il écrit ceci, alors qu'il était en prison. Enfin, en se rappelant du temps où il était en prison. Il était strictement interdit de prêcher aux autres prisonniers. Il était convenu que quiconque était pris en train de le faire serait sévèrement battu. Certains d'entre nous ont décidé de payer le prix pour le privilège de prêcher. Alors nous avons accepté leurs conditions. C'était un accord. Nous, on prêchait, et eux, ils nous battaient. Nous étions heureux de prêcher. Ils étaient heureux de nous battre, et donc tout le monde était heureux. On a presque envie de rire en lisant ça. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir une telle joie, une telle assurance au milieu de la difficulté? Eh bien, on apprend dans ce texte qu'il y a une joie surnaturelle qui vient du Saint-Esprit lui-même, qui nous amène à ne pas placer notre joie dans les circonstances, dans ce qui se passe dans notre vie, peu importe ce que c'est, mais qui nous amène à placer notre joie dans des vérités qui sont fixes et stables. La bonté de Dieu, la souveraineté de Dieu, le privilège de le servir, la manière dont Dieu utilise les épreuves, même les plus difficiles, pour sa gloire et pour notre bien. Notre statut d'enfant racheté, bien aimé par lui. C'est ce que cet homme avait connu. C'est ce que les Thessaloniciens vivaient. Et c'était la preuve de l'œuvre de Dieu parmi eux. Et ça aussi, c'est profondément encourageant. Une persévérance dans l'épreuve. Troisième signe de leur foi authentique qui est mise en avant ici dans ce passage, c'est qu'ils sont un modèle pour les autres, un modèle pour les autres. En fait, on a une sorte de chaîne d'imitation dans ces versets. Il y a les autres églises qui imitent les Thessaloniciens, on voit ça au verset 7. Paul écrit « Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Mais les Thessaloniciens eux-mêmes, ils imitent Paul, Silas et Timothée. On voit ça au début du verset 6. « Vous-même, il s'adresse à eux, ces chrétiens, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés. » Et donc, ils imitent aussi le Seigneur Jésus lui-même, parce que Paul, Silas, Timothée sont des imitateurs du Seigneur. C'est lui le modèle parfait. Et donc, on a cette chaîne, on a Jésus qui est imité par Paul, Silas et Timothée. On a Paul, Silas et Timothée qui imitent Jésus et qui sont imités par les Thessaloniciens. Et on a ces Thessaloniciens qui sont imités, qui sont un modèle pour toutes les autres églises. Et on voit ici que par leur foi vivante, par la manière dont ils ont reçu l'Évangile, par leur persévérance dans l'épreuve, les Thessaloniciens sont devenus un modèle pour les autres églises. Ils ont eu une influence positive sur beaucoup. C'est frappant de lire le verset 8. « Non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Si vous venez à l'église depuis plus qu'un dimanche, vous avez probablement déjà entendu parler du livre « Faire des disciples ». On en a pas mal parlé ces derniers mois, on encourageait à le lire en livre d'été. Et un des éléments que ce livre met en avant, c'est qu'on a tous une influence sur les autres dans l'église. Que ce soit une bonne ou une mauvaise influence. Et je trouve que ça nous amène vraiment à nous poser des questions. Mais est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on utilise cette influence pour aider les autres à grandir dans le Seigneur? On peut se demander de manière assez directe et personnelle, mais quel modèle est-ce que je renvoie? Si les autres dans l'Église m'imitaient, qu'est-ce que ça donnerait? Dans mon engagement envers l'Église locale, dans mon amour pour le Seigneur, dans mon souci des autres, dans mon hospitalité, dans ma vie de prière, dans ma lutte contre le péché, est-ce que je peux être imité? Pas juste de ce que je fais publiquement, mais aussi de manière privée. Soyons conscients que, qu'on le veuille ou non, on donne, on renvoie un modèle vers les autres. Alors l'idée, c'est pas d'être parfait ou d'attendre d'atteindre un certain niveau dans ces domaines pour se mettre à l'œuvre. Aucun de nous n'est parfait. Les Thessaloniciens non plus ne l'étaient pas. Et Paul va mettre ça en avant dans la lettre. Mais l'idée, c'est de pouvoir montrer par notre vie à quoi ressemble la vie d'un disciple de Jésus. Et je dois dire que je suis vraiment encouragé par cette église depuis que j'y suis arrivé. J'ai pu rencontrer tellement de modèles de la vie chrétienne. Des personnes qui m'ont montré ce à quoi ressemble la vie d'un disciple de Jésus dans différents domaines, dans la consécration, dans le service pour le Seigneur, dans la vie de prière, la vie de couple, la vie de famille, la lutte contre le péché, l'évangélisation, le zèle. Des gens que j'avais vraiment envie d'imiter, à qui j'ai vraiment envie de ressembler. Je vais nommer personne pour gêner personne, mais je veux vraiment nous encourager à continuer à avancer dans ce domaine. C'est encourageant de voir ça, c'est beau à voir. Et tout comme les Thessaloniciens, c'est la preuve d'une foi vivante qui est à l'œuvre, d'une foi authentique, un modèle pour les autres. Et enfin, le dernier signe qui est mis en avant dans ce passage d'une foi authentique, que c'est super encourageant ce qui se passe chez les Thessaloniciens, c'est qu'ils ont eu une juste réponse à l'Évangile, une juste réponse, une juste réaction à l'Évangile. Ils ont réagi de la bonne manière au message qui leur a été prêché. Et il y a un lien étroit avec le premier point qu'on a vu, le verset 3, où il était question de foi vivante. On a vu qu'il y a des vérités qui ont produit du fruit dans leur vie. Et c'est en regardant leur vie que Paul peut dire « Merci Seigneur, Dieu est à l'œuvre parmi vous. » Et c'est un peu le cas aussi ici où Paul revient en arrière dans un sens pour parler de la manière dont ces chrétiens ont réagi à l'Évangile. Paul sait que Dieu est à l'œuvre parmi eux. Paul sait que ce sont des chrétiens authentiques parce que quand il leur a annoncé le message de l'Évangile, ils y ont réagi de la bonne manière. Ça s'est vu dans leur vie. Et il y a trois réactions que Paul met en avant ici. Faire demi-tour, servir et attendre. Et on va voir ça ensemble. Faire demi-tour, servir et attendre. Faire demi-tour, d'abord, on voit ça avec le verset 9. Paul écrit « De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » À l'époque, dans cette ville de Thessalonique, comme dans tout l'Empire romain, l'idolâtrie était très présente. Il y avait beaucoup d'idoles, plein de dieux. Et voilà que Paul et ses amis arrivent et qu'ils annoncent qu'il y a un seul dieu, que les autres sont des faux dieux, des inventions humaines, des idoles, qu'il ne faut pas les suivre, mais qu'il faut se détourner de cela pour servir le seul vrai Dieu qui s'est révélé en la personne de Jésus. Et tout naturellement, c'est ce que les Thessaloniciens ont fait. Et on a ici une description en toute simplicité de la foi chrétienne, de la réponse que chacun de nous, on est appelé à donner vis-à-vis de Jésus. Se détourner des idoles et se tourner vers Dieu. Et ça nous concerne tous. On a tous rejeté Dieu pour vivre pour autre chose, que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit pour quelque chose d'autre. Notre cœur cherche ailleurs ce qu'il ne peut trouver qu'en Dieu seul. Et c'est ça qui se trouve à la racine du péché. Rejeter l'autorité de Dieu sur nos vies, notre besoin et notre dépendance envers lui. Vivre comme nous le voulons, loin de lui, et ainsi transgresser ce qu'il nous demande. Mais au cœur de la foi chrétienne se trouve un message qui nous appelle à nous détourner de ce cœur mal placé pour nous tourner vers Dieu. Un message qui nous appelle à faire demi-tour. Et c'est ça que signifie la repentance. C'est pas simplement réaliser que j'ai fait faux. C'est pas simplement être attristé parce que j'ai fait faux. Mais c'est réaliser que j'ai fait faux, que j'ai pas vécu comme j'aurais dû vivre et me détourner de ce mode de vie. Faire demi-tour, me détourner d'un mode de vie qui déshonore Dieu pour me tourner vers lui, pour trouver refuge en lui. Et c'est à cela que Jésus-Christ lui-même appelle chacun de nous. En venant sur cette terre, un des premiers messages qu'il a annoncé, c'était celui-ci. « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est-à-dire, détournez-vous de vos fautes et tournez-vous vers moi pour recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors pour vous qui découvrez la foi chrétienne ou qui considérez la foi chrétienne de loin depuis plusieurs dimanches peut-être, il n'y a rien de plus urgent. Parce que comme on le voit dans le verset 10, Jésus est celui qui nous délivre de la colère à venir. Ce mode de vie qui a rejeté Dieu, qui nous met face à la réalité de son jugement, de sa colère qui est tout simplement une juste réaction face à ce qui est mal, face au péché. Il y a un jour où ce sera trop tard. Cette colère va venir. Mais pour tous ceux qui sont détournés de leur faute, qui ont placé leur confiance en lui, Jésus est celui qui les délivre de cette colère. Et comment est-ce qu'il l'a fait? En donnant sa vie lui-même sur la croix, où il a pris cette colère à notre place, pour qu'en croyant en lui, on puisse être en bonne relation avec Dieu. Alors si ça vous interpelle et que vous voulez creuser plus loin, participez au parcours découverte dont Steve a parlé. Inspectez le site l'essentielsurjésus.com, les vidéos, et creusez plus ce message. Mais ça ne s'arrête pas là pour ces chrétiens. Il y avait faire demi-tour, mais ensuite servir, la deuxième réaction, la bonne réaction qu'ils ont eue. Regardez la fin du verset 9. « Vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » C'est la suite logique. Si on reconnaît que notre manière de vivre était fausse et qu'on se tourne vers Dieu, c'est logiquement pour vivre différemment. C'est pour servir Dieu d'une manière qui lui plaît, d'une manière qui lui est agréable, qui convient. Quand j'habitais encore à Paris chez mes parents, j'avais le slogan de l'armée du salut qui était accroché dans ma chambre, « Sauver pour servir ». Sauver pour servir. Et je trouve que c'est une belle description de la foi chrétienne. On n'est pas sauvé pour rester dans notre bulle, pour attendre que les choses passent, mais on est sauvé pour servir celui qui nous a tant aimés. Et comme les Thessaloniciens, ça commence dès le premier jour de notre vie chrétienne et ça continue jusque dans l'éternité. Et troisième réaction qu'ils ont eue, la bonne réaction, attendre. Dans le verset 10, « Pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. » En tant que chrétien, on sait que la prochaine date dans le calendrier divin, c'est le retour de Jésus. Jésus va revenir mettre fin à ce monde et nous prendre avec lui pour toujours. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on désire au plus profond de notre cœur. Et comme on l'a vu, c'est cette espérance qui nourrit notre persévérance, qui nous aide à tenir bon. Et c'est tellement facile, dans le rythme effréné de nos vies, d'oublier ça. D'oublier que c'est là notre espérance et que si nous servons sur cette terre, nous servons en attendant Jésus, en sachant qu'il va revenir, qu'il l'a promis, et que ce sera l'accomplissement de toute chose, la ligne d'arrivée en quelque sorte. Et parce que c'est tellement facile d'oublier ça, et je vois ça pour ma propre vie, j'aime les chants qui me rappellent de ces vérités, et il y a un chant d'écriture que j'aime beaucoup, qu'on a déjà chanté ici, qui m'aide à me souvenir de ça au quotidien, et le refrain dit ceci. « Ô viens Jésus, ô Seigneur, hâte ton retour, nous attendons, nous guettons l'aube de ce jour. Ô viens Jésus, descends pour rassembler les tiens, nous attendons, que la trompette sonne enfin. » Vous pouvez écouter ça sur Spotify, YouTube, pour vous rappeler de ces vérités à vous-même. Alors, est-ce que vous voyez, après avoir considéré ce passage, à quel point la foi chrétienne, ce n'est pas simplement des vérités qu'on croit, mais aussi et nécessairement des réalités qu'on vit. Ça se voit. et c'est beau à voir. Et dans un sens, je pense que ceci, ça s'adresse assez directement à notre Église de Woluwe. Bien sûr, c'est pas parfait, mais merci Seigneur qu'on peut voir les signes d'une foi authentique parmi nous. Une foi vivante, une persévérance dans l'épreuve, un modèle pour les autres, une bonne réaction à l'Évangile, ça se voit et c'est vraiment beau à voir. Ou alors je pense, en lisant ce passage, à mon ami Greg. Il vient des États-Unis. On s'est rencontrés dans un camp en France il y a quelques années. Et à l'époque, on avait peut-être, 17, 18 ans. Et on était assez immatures. J'espère que ça a changé depuis. Voilà, on s'est rencontrés dans ce camp, on servait ensemble. Et on n'était pas super, lui, il n'était pas super engagé par rapport à la foi. Et moi, je venais tout juste de me convertir. Et puis, on s'est perdu de vue. Et puis, 5 ans plus tard, à peu près, il m'envoie un message. Il savait que j'étais à Bruxelles. On suivait de loin sur Facebook. Ah, je vais venir à Bruxelles. Est-ce qu'on peut se voir? Et donc, on s'est donné rendez-vous dans un café au centre. Et puis là, pendant 2 heures, plus de 2 heures, on a juste parlé. Et il m'a raconté sa vie. Et j'étais tellement encouragé de voir ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il avait vraiment grandi en maturité. Il aimait le Seigneur. Il avait étudié la Bible. Il avait une théologie vraiment solide. Et il désirait servir le Seigneur avec toute sa vie. Il se posait des questions de quoi faire de sa vie, de comment annoncer l'Évangile à ceux qu'il avait jamais entendus. Et depuis, on est devenus très proches, même si on habite loin l'un de l'autre et qu'on a peu d'occasion de se voir. J'ai eu l'occasion d'aller lui rendre visite il y a 1 ou 2 ans. J'ai passé 10 jours avec lui et j'ai vraiment été marqué de voir comment il vivait une vie chrétienne authentique. J'ai pu voir sa foi à l'œuvre dans son désir de partager l'Évangile aux autres, de s'impliquer radicalement dans son église locale. J'ai pu voir son amour se mettre au travail dans le souci qu'il prenait de ses frères et sœurs dans l'église, et pas juste des jeunes comme lui, mais de toute personne, de tout âge et de tout niveau de vie. J'ai pu voir sa persévérance dans l'épreuve, face au rejet de sa famille, pour sa foi qui n'est pas croyante, grâce à l'espérance qu'il avait en Jésus. Bien sûr, en passant 10 jours avec lui, j'ai aussi pu voir qu'il n'était pas parfait, et il l'avouait lui-même, et il m'a partagé ses luttes, ses manquements et son besoin de grandir dans la grâce. Et on essaie de se voir, de s'appeler autant que possible, mais c'est juste, ça me marque que ce gars-là, Greg, à chaque fois que je le quitte, à chaque fois qu'on a terminé de s'appeler, je suis tellement encouragé et motivé à vivre pour le Seigneur. Comme encouragé tout à nouveau à tout donner, à continuer à grandir, à avancer pour servir Christ et à l'imiter. Et je suis sûr que ceux qui côtoyaient les Thessaloniciens, ils devaient sans doute dire la même chose. Et j'espère que nous aussi, après avoir étudié ce passage, on peut aussi dire la même chose, être encouragé tout à nouveau à suivre ce modèle et à continuer à avancer en servant le Seigneur. Et en faisant nôtre les paroles de ce chant qu'on va chanter dans un instant, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté, à toi seul je veux être et pour l'éternité. Prions ensemble pour terminer. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour ce bel exemple des Thessaloniciens qui sont véritablement des chrétiens modèles dans plusieurs domaines de leur vie. Merci pour l'encouragement que c'est pour nous à nous donner pour toi et à te servir avec un zèle renouvelé. On te remercie pour toutes les personnes dans nos vies qui sont des bons modèles et qui nous encouragent à cela. Et on réalise, notre Dieu, que tout cela, c'est l'œuvre de ta grâce. C'est toi qui les as choisis, qui les as appelés, qui les as sauvés, rachetés un grand prix. Et on réalise que cette grâce tire sa source dans la croix de Jésus, où il est mort à notre place. Merci parce qu'il est celui qui nous délivre de la colère à venir. Merci pour l'espérance qu'on a de savoir qu'il va revenir un jour. Et on prie que tu nous aides à le servir en l'attendant. En son nom. Amen.